L'obéissance à Christ. Nous pouvons être un homme très bien à nos propres yeux, et tout d'un coup, nous sommes satisfaits de ce que nous sommes, et c'est ça l'humaniste. Mais ce qui nous dérange, c'est d'obéir à Christ. C'est quelque chose, se soumettre à quelqu'un, Jésus-Christ. Alors, l'obéissance à Jésus-Christ semble être une injure à l'autonomie de l'homme et au caractère adulte de l'homme. Ça paraît être une marche arrière. Mais si on observe bien qui est Jésus, comment il parle et tout, comment il est, c'est pas une injure. Naturellement, il faut une lumière. Une lumière. Cette lumière, c'est de se rendre compte qu'on est captif d'un orgueil personnel, même si on ne le voit pas. C'est ça la pensée captive, l'orgueil personnel, que Jésus lui n'a pas. Ainsi, les amis, on peut aller directement dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1. La deuxième épître de Pierre au chapitre 1. Verset 3. Comme sa divine puissance, donc Dieu, Jésus-Christ est Dieu, est ressuscité. Et il a dit, j'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 18 à 20. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, donc à la foi, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, donc nous avons reçu par le Christ et par sa divine puissance tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Verset 4. Les vertus de Christ, bien sûr, nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Donc les plus belles réussites de tout notre être, de notre perfectionnement, de notre accomplissement, se basent sur les qualités de Jésus-Christ, de toutes ses vertus, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. La finalité, c'est de participer à la vie divine. Et rappelez-vous, Jean chapitre 17, tous les versets, c'est « Père, que l'amour qu'il y a entre toi et moi soit en eux, qu'ils soient un, comme nous sommes un, etc. » Et donc, devenir participant de la nature divine et fuir en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, alors ici nous avons des exhortations spirituelles et morales pour aller dans ce sens, pour pouvoir nous appuyer sur les vertus de Jésus et recevoir en nous de précieuses promesses et participer à la nature divine. Pas seulement demain, mais participer tout de suite et progresser dans cette participation. Eh bien, il y a des injonctions, il y a des ordonnances. Et ces ordonnances-là, celles-là, eh bien celles-là, elles demandent de l'obéissance. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. Donc la vertu, c'est une image de la sainteté, évidemment. C'est l'amour de la sainteté. Et à l'amour de la sainteté et la science, c'est l'amour de la connaissance de Dieu. De la connaissance par la parole. À la science, la tempérance, ben c'est l'amour de la maîtrise de soi, l'amour de la paix en soi, la paix de Christ en soi. Et qu'est-ce qu'il est mis? À la tempérance, la patience. Et oui, dans les conflits, il y en a toujours dans la vie, même, il peut y en avoir entre chrétiens, il y a des différends, etc. Et puis, avec les non-croyants, il y a des conflits. Il faut exercer une patience, c'est-à-dire, on refuse la guerre, et on refuse la domination, on refuse la démolition, on cherche la paix, absolument. La patience, c'est l'outil de la paix. À la patience, la piété. Donc, la patience permet de progresser dans la relation personnelle avec Dieu. La patience permet d'être de plus en plus en relation de foi avec Dieu. À la patience, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisives ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, si nous nous reposons sur toutes les vertus de Jésus, tous ses enseignements, prenons Matthieu par exemple de chapitre 5 à 8, c'est fondamental pour le changement d'une vie, pour ressembler à Christ et pour accepter la pensée et la volonté du Père, eh bien, nous ne serons pas oisifs ni stériles. C'est un labeur, c'est un travail conséquent à entreprendre de sanctification et il porte du fruit. Et on en arrive à quoi ? À une connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, on découvre vraiment la personne de Jésus-Christ par le chemin de la foi. Donc, nous rejoignons ce que Jésus a dit à Thomas, « Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. » Il faut croire et nous voyons après. Par la foi, nous acceptons Jésus, par la foi, nous acceptons ses ordonnances, sa parole, par la foi, nous vivons sa parole et par la foi, nous arrivons à la connaissance de Christ. Par la foi, nous arrivons à la connaissance de Dieu, à la plénitude de Dieu. Verset 9. « Mais celui en qui ces choses ne sont point, alors là c'est incroyable, est aveugle. Il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses péchés. » Donc ici, Pierre s'adresse à des personnes qui se disent chrétiennes. Dans les deux cas, il y a les deux situations dans les chrétiens. Il y a le chrétien aveugle qui ne voit plus en quoi il devrait se remettre en question et être purifié par la parole de Dieu, purifié dans la prière et l'humilité et l'obéissance à Christ. Il ne le voit plus. Il a l'assurance du salut, il a le tampon et puis il croit qu'il va arriver. Qu'est-ce que Jésus a dit, Matthieu 7, 21 ? Arrière de moi, vous ne m'avez pas connu, vous avez fait l'iniquité, vous n'avez pas fait la volonté de mon Père. Ce n'est pas la peine de tomber dans l'aveuglement, ça ne mène que dans les ténèbres. Et la deuxième chose, les anciens péchés. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Ça veut dire que quelqu'un, quand il se convertit, peut être de très bonne foi, avoir fait tout le tour avec... peut-être un pasteur ou des anciens ou des chrétiens, des véritables problèmes qu'il avait avec les autres et avec Dieu. Et avoir mis tout cela au clair et avoir prié. Et même celui-là, plus tard, il peut redevenir aveugle. Même celui-là, il peut oublier tout ce qu'il a un jour dit à Dieu, confessé, et retomber dans ce péché-là. Et comment ne pas y retomber ? Eh bien, tout simplement par l'obéissance. L'obéissance aux vertus de Christ. L'obéissance à la parole de Christ.
Et la vie des vies.
Il est clair que quand Jésus a dit « Celui qui me donne sa vie la sauvera, et celui qui veut la conserver pour lui-même la perdra », c'est réellement l'explication de ce verset que je vous donne aujourd'hui. Pour Dieu, donc, selon l'Évangile, on est adulte, accompli seulement en Christ et seulement le jour qu'on le verra. Prenons la première épître de Jean, chapitre 3. Chapitre 3, verset 1 à 4, à 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc, le face-à-face, la présence de Dieu, achève, par son divin pouvoir, achève l'œuvre entreprise par Jésus-Christ aujourd'hui, par sa parole. Tout s'accomplit parfaitement en Christ. Tout est achevé en Christ. C'est pour ça que quiconque, verset 3, a cette espérance en lui, se purifie comme lui-même est pur. C'est-à-dire, l'espérance donne une force, une mobilisation pour continuer la bataille de la purification. Et c'est ça que je voulais dire, quand dans un pays, le chef demande de résister à l'envahisseur et que tout le monde se met avec, c'est impossible pour l'autre d'arriver à ses fins. Et c'est la même chose chez les chrétiens. Pour quiconque a cette espérance, il se purifie et il résiste à Satan. Apocalypse. C'est pour ça que Jésus indique clairement à la fin de ce beau livre d'Apocalypse, chapitre 22, le temps est proche, chapitre 22, verset 10, que celui, verset 11, maintenant que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, c'est clair, c'est ce que Pierre vient de dire, il y en a qui sont aveugles, ils ont mis en oubli la purification de leur péché, c'est le faux christianisme. C'est le faux christianisme, ça. La fausse chrétienté. Et il dit ceci, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui se souille encore, que le juste pratique encore la justice, que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi. Quelle rétribution? Être rendu semblable à Christ, n'est-ce pas? C'est la finalité de notre vie. Et on est adulte accompli en Christ. Éphésiens chapitre 4 verset 24. Éphésiens chapitre 4 verset 24. Donc le programme que nous avons, nous chrétiens, ne peut pas être source de dénigrement pour un humaniste. Il ne peut pas être source de dénigrement pour un athée. Si nous respectons l'athée dans ses vues, nous savons très bien que dans sa conscience, il fait tout ce qu'il peut et tout ce qu'il doit. Mais ce qu'il y a, nous chrétiens qui avons reçu une autre paire de lunettes, nous voyons les limites de cet accomplissement par soi-même. Et nous voyons la captivité qu'il y a à être juste à ses propres yeux. Nous, chrétiens, nous voulons être justes en Christ, aux yeux de Dieu. C'est cela la différence. Nous voulons être accomplis en Christ, par Christ, aux yeux de Dieu. Éphésiens 4, verset 24. Et je ne fais pas d'opposition entre l'athée et le chrétien, je fais simplement des différences. Et ce n'est pas des batailles, c'est pour clarifier les choses. Simplement. Éphésiens 4, je vais commencer au verset 17. Voici donc ce que je dis, que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent là en vanité de leurs pensées. Je ne mets pas un sens subjectif et agressif sur ce mot. Vanité de la pensée, c'est-à-dire les pensées tournées sur soi-même. Ils ont l'intelligence obscurcie, ben oui, s'ils ne connaissent pas Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc ils sont bloqués à eux-mêmes. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Là, nous voyons qu'un certain nombre de gens qui se disent incroyants et athées finissent par flancher et tomber dans le péché. Mais on pourrait répondre, ben aussi les chrétiens. Oui, évidemment, il y a des chrétiens qui sont devenus imbus d'eux-mêmes, avec leur assurance du salut, leur étiquette, leur suffisait, et qui n'ont pas continué à se reposer sur Christ. Évidemment, dans un cas comme dans l'autre, tout homme est pécheur. Verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Donc nous voyons ici qu'il y a quelque chose de différent. Le chrétien est instruit par la parole de Dieu à être dépouillé, à se dépouiller. Qu'est-ce que ça veut dire dépouiller? Tirer les vieilles pouilles, les vieux vêtements sales, pour en remettre de nouveaux, bien propres. La tunique blanche des œuvres saintes de Christ. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Donc, renouvelé dans les pensées, dans la façon de voir les choses. Et bien sûr, renouvelé, ça veut dire tout est remis à neuf. C'est pas amélioré. Tout tout remis à neuf. C'est ça que ça veut dire. Et à revêtir l'homme nouveau, donc on voit le nouvel habit par rapport aux vieilles pouilles, revêtir l'homme nouveau, Jésus-Christ, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Et puis alors il y a toute une série d'applications qui se retrouvent dans Matthieu 5 à 7. Donc, revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice, une sainteté que produit la vérité. La vérité de Jésus produit en nous un autre être. Pas un être supérieur à l'incroyant, un autre être. Un être nouveau. Et si je prends d'autres textes, il y a bien sûr une lutte. Une lutte. On ne peut pas dire que c'est facile. Mais Vous lirez vous-même Éphésiens 6, verset 12, vous verrez qu'il faut prendre, se fortifier en Christ et prendre les armes du salut, les armes spirituelles. Ce ne sont pas des armes contre les autres, des armes contre notre péché, notre vieille chair. Mais regardons plutôt à Jean 16, verset 7 et 10, pour en finir aujourd'hui. Jean 16, verset 7 à 10. Jean 16, verset 7. Je vous dis la vérité, c'est Jésus. Donc sa parole est vérité. Hein? N'oubliez pas ça, Jean 17, 17. Ma parole est la vérité. Ma parole vous sanctifiera. La vérité vous sanctifiera. Donc, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc, il ne faut plus que Jésus soit là. Il faut qu'on soit face à nos responsabilités, face à sa parole. Ou je la fais mienne, ou je mets de côté. C'est cela l'avantage de l'absence physique de Jésus. C'est que je suis face à ma responsabilité. Je ne suis contraint en rien par Jésus, mais je suis responsable devant sa parole. Et c'est sa parole qui sera mon juge. Si je l'ai accepté, vécu, essayé de la vivre ou refusé. Alors regardons bien. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il sera venu, dans le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc le Saint-Esprit va me convaincre et me montrer où sont les péchés qui doivent être rejetés. Il m'en donnera la force. Et il me convaincra de justice, c'est-à-dire il va me mettre sous le sang de Jésus. C'est par le sang de Jésus que je suis déclaré juste. Je ne serai jamais juste par moi-même, à mes propres yeux, par moi-même, par tous mes efforts. Je ne suis pas dans une religion de mérite avec Jésus-Christ. Je suis dans une religion une relation de grâce. C'est dans sa justice, en son pardon, que je suis déclaré juste. Pardon qui n'est pas lié à mes œuvres et qui est gratuit. Ensuite, le jugement. Je mènerai ma vie avec la parole de Dieu et en Christ, par la foi en Christ, et je ferai l'objet d'un jugement sur ma fidélité à la parole ou de ma trahison de la parole. Et voilà. Alors, je lis au verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » C'est voilà l'œuvre chez le chrétien adulte. Il est conduit par la vérité. Le chrétien adulte accepte d'être conduit par l'esprit de vérité. C'est la caractéristique même. Je pense qu'un chrétien qui manque de caractère adulte, d'affermissement, ne se laisse pas encore conduire par l'Esprit Saint. Il est toujours en plein train de béquille, il faut l'aider, mais pratiquement il peut arriver à ce stade, c'est le plan de Dieu pour lui. Il faut l'aider dans une église, il faut l'aider, le pasteur est là pour ça et d'autres aussi. Et il faut absolument qu'il soit conduit en vérité par le Saint-Esprit un jour, qu'il puisse dire « Je vis par l'Esprit de Christ, je vis dans sa parole, et j'ai acquis mon caractère adulte dans la foi, la maturité chrétienne. » Alors regardez l'Esprit Saint, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, et il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Tout ce qu'il a entendu, c'est-à-dire ce que Jésus a dit, il le remet dans mon cœur. Et tout ce que Jésus a dit pour le futur, il le remet dans mon cœur. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce qui est de l'Esprit Saint rend gloire à Christ. Tout ce qui est de la chair bafoue Christ et l'offense. Tout ce qui est de l'Esprit Saint vient pour me rendre humble et pour que je loue la gloire de Christ. La gloire de Christ est l'objet de mon adoration par l'Esprit Saint. Voilà l'adulte chrétien. Si vous comprenez ça, chers frères et sœurs, moi aussi je fais des efforts tous les jours pour le comprendre. Je suis obligé de vous l'expliquer, mais je vais vous dire, c'est une tâche inhumaine. Heureusement que justement l'Esprit Saint est là pour nous ramener sans cesse dans ce chemin. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Jésus prie pour nous. Jésus prie pour nous, pour que tout cela se fasse en nous. Jean 17, 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi. Afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jésus prie pour nous. Quelle chance qu'on a! Parce que toute parole de Jésus, toute prière de Jésus à son Père est exaucée. Jésus l'a dit dans l'évangile de Jean. Mon Père m'exauce toujours. Amen.